Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esperluette, le podcast à l'écoute des belles énergies de mon territoire, le Vaucluse. Nous sommes au mois de juillet et qui dit juillet à Avignon dit festival. Et cette année, il a bien lieu. Si vous êtes une fidèle auditrice ou un fidèle auditeur d'Esperluette, vous savez que c'est un moment que j'attends particulièrement, alors cette année, l'attente était encore plus forte. Je ne pourrais pas couvrir le festival avec des interviews d'artistes comme je l'ai fait en 2019. En revanche, je renouvelle ma collaboration avec l'équipe du TOMA, le Théâtre des Outre-mer à Avignon. Je vais donc réaliser des chroniques pour leur web radio à partir du 12 juillet. En attendant, je vous propose de partager avec vous le reportage que j'ai réalisé l'année dernière pour la radio sur l'histoire de la chapelle du Verbe incarné, le lieu où les compagnies ultramarines viennent présenter leurs créations lors du Festival Off d'Avignon. Ce reportage en 10 épisodes est un échange avec Michel Sylvestre, architecte à la ville d'Avignon, pour parler du passé et du futur de ce superbe bâtiment basé rue des Lys. Aujourd'hui, nous allons découvrir les différentes vies de la chapelle. Bonne écoute! De retour dans les bureaux de Michel Sylvestre, car le Mistral a eu raison de nos échanges à l'extérieur, on continue l'histoire de la chapelle du Verbe incarné, et elle n'a pas été vraiment douce avec ce bâtiment, nous allons le voir. Michel Sylvestre, pouvez-vous nous rappeler les débuts de l'histoire de la chapelle ?
Cette chapelle s'inscrit dans un vaste programme d'un cloître et de bâtiments conventuels qui ont été petit à petit dessinés, achetés, construits par la congrégation de l'ordre du Verbe incarné, qui est à l'initiative de Madame Jeanne Mattel, dans une période où la contre-réforme battait son plein. Et ce bâtiment a été construit vers les années 1690 et béni un an après.
L'ordre du Verbe incarné va rester longtemps à Avignon ?
Il reste présent jusqu'à la veille de la Révolution, bien que quelques péripéties peuvent être précisées, puisque le bâtiment brûle vers les années 1725. C'est là où des travaux de réparation se font. D'ailleurs, les traces sont encore apparentes. On s'aperçoit sans doute que les voûtes ne sont plus présentes aujourd'hui. Le bâtiment, néanmoins, vit encore jusque dans les années 1791, et la vie monastique de ce lieu poursuit son travail, si je puis dire.
Arrive donc la Révolution, qui va sonner la fin de l'ordre du Verbe incarné à Avignon et causer beaucoup de dégâts sur le bâtiment.
C'était le courant de l'époque révolutionnaire de détruire les représentations de l'Église. L'acte révolutionnaire à Avignon a largement détérioré et vendu nos bâtiments. Le fronton a été bûché, abîmé, et c'est ainsi que la chapelle n'est pas en totalité propriété de la commune, son aile droite à des logements, et les bâtiments conventuels ont été vendus et restaurés, et aujourd'hui occupés par des propriétaires privés.
Que s'est-il passé pour la chapelle après la Révolution ?
Après la Révolution, il y a eu des installations de teinturiers, d'imprimeurs. Par la suite, l'église évangélique s'y est installée, la ville d'Avignon a acheté vers les années 2000, et c'est ainsi que le théâtre d'Outre-mer s'y installe.
Est-ce que vous pensez que les personnes qui ont construit ce bâtiment s'attendaient à une telle histoire ?
Oh, je pense qu'ils seraient ravis de savoir que leur bâtiment est encore sur pied, parce qu'en vivant l'épopée révolutionnaire, je pense que la Révolution française, pour la société de l'époque, a dû être un traumatisme, oui.